Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, nous continuons Team Dugas pour la deuxième heure avec Jean-Louis Tour toujours en place.
Bien sûr.
Nous accueillons Gilbert Bribois, nous accueillons Emmanuel Petit et nous accueillons Julien Cazard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Salut tout le monde. Bienvenue.
Alors on y va pour cette deuxième. Alors,
j'ai appris que l'alcool faisait gonfler ou quoi, c'était de conneries. Et Wesley Snyder, il sait pas boire, c'est tout. Hein. Si tu sais boire, normalement, c'est bon, ça arrive directement dans le sang. Et hop, nickel.
Ça dépend ce que tu bois.
Merci, très bon conseil.
Ouais. Ah ben moi je le mets en intraveineuse, hein. Faut surtout pas boire par la bouche. Directement en psoose.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire avec modération, etc. etc. On vous remercie.
Boire avec des copains surtout.
Avec modération. Dans cette deuxième heure, le blind test tout à l'heure. Et puis donc, on va se rappeler certains bons souvenirs que l'on a passés ensemble pendant 4 ans, Dugas. On va refaire pendant les 2 semaines qui viennent des débats qui ont fait le succès de
4
Dugas.
Ans déjà ?
Mais bien sûr.
Incroyable.
La fin de la 4e année.
C'est vite, hein.
Ah ouais. Que de débats formidables qu'on va pouvoir refaire donc pendant 2 semaines. Et on va se poser la question tout à l'heure à 19h30. Didier Deschamps a-t-il vraiment pris l'équipe de France en otage?
Oh merde.
J'aime beaucoup
le rapport à quoi
l'intitulé. Ah, ce qu'avait dit Dugas avant la Coupe du Monde 2018 sur le cas Benzema.
Et... mais vous êtes vraiment des vicelards en fait.
Mais quoi,
Benzema, ils il fait adorent. Une passe décisive de dingue hier soir. Donc oui. Là aujourd'hui vous faites ce débat.
Ouais.
Ah bah attends, on vraiment franche. Des vicelards.
On n'attend pas que ça se
fasse. Alors attends, le premier jour, j'ai su que tu étais vicieux.
Je ne permets pas cette insulte. Déjà, hein, je suis père de famille. Mais à 19h30, on va revenir sur ce qu'a fait Benzema hier, évidemment. Et en parallèle, on reviendra sur ce débat. Et tous les jours, on fera ça. On reprendra un débat. On fera les récompenses individuelles. On fera l'OM et son centre de formation. On fera Totti est une légende du foot. Voilà, on fera tous ces débats.
Il a retrouvé sa montre.
Fait parler. Qui?
Totti.
Il n'avait plus de montre.
Bah, il a perdu sa montre fétiche depuis.
Il a perdu sa Rolex.
Une Rolex gravée, je crois, avec 2 initiales de ses enfants.
Mm-hmm. Il y en a qui ont des problèmes. Hein.
Il, quand même des... il offre une prime, apparemment.
Ah bon, j'ai pas dit
incroyable
cette histoire.
Ouais, ouais. Si, il a perdu sa Rolex et donc il a publié des messages sur les réseaux sociaux disant aidez-moi, j'ai pas
d'accord. Attends, mais moi, franchement, j'achète une Rolex, je lui grave le nom de ses gosses et c'est fait. Il va pas me s'emmerder 2 heures. Si c'est que ça.
Écoute, j'ai l'impression que c'est sentimental. Bon, on en parlera tout à l'heure à 19h30. Fred Hermel sera avec nous également. Tout de suite, Dimitri Payet. Donc, samedi, on a appris qu'il prolongeait son contrat jusqu'en 2024 à Marseille. Il aura 37 ans. Oui, il se marre déjà, lui.
Non, mais les génies, ça n'a pas d'âge. Ça vieillit pas.
C'est vrai. Ah, bah, d'ailleurs, on pourra le refaire aussi, ce débat. Payet, le génie du foot. Donc, Payet souhaitait être Marseillais à vie, a-t-il dit à Jacques-Henri Hérault, son président. Du coup, ils ont trouvé cette idée de prolongation de contrat. Il aura un projet de reconversion au club. Mais surtout, il a accepté de diviser par 2 son salaire pour la saison prochaine, de diminuer de 30% la saison suivante, puis encore lors des 2 saisons suivantes. Il a donc, par ailleurs, renoncé à des primes de qualification pour la Coupe d'Europe. En gros, il va lisser ce qu'il aurait dû toucher sur 2 ans, sur les 4 prochaines saisons. À l'arrivée, il fait quand même un effort pour les années à venir. Alors, est-ce qu'il remonte dans votre estime, notamment après avoir refusé de baisser son salaire? On lui était beaucoup tombé dessus lorsqu'il avait dit qu'il avait des crédits à payer et une famille à mettre à l'abri. 32-16, appelez-nous pour en débattre. Dugas.
Après, non mais sincèrement, je l'avais dit dès le départ. Chacun fait comme il veut, s'il a envie de baisser son salaire ou pas baisser son salaire. J'avais pas envie de rentrer sur ce sujet-là. Après, voilà, c'est personnel. Je trouvais que c'était naze de parler de ça. Après, on en est venu à en parler parce qu'il a expliqué qu'il baisserait pas son salaire parce qu'il avait des crédits à rembourser. Donc, je trouvais que sur la forme, c'était totalement ridicule de dire ça. Mais sur le fond, j'ai pas envie de juger s'il estime que c'est mieux de continuer à l'OM 4 ans et de lisser son salaire. Écoute, c'est son problème, c'est pas pour ça qu'il va remonter plus dans mon estime. Je sais pas, ça n'a pas de, pour moi, ça n'a pas de coïncidence. Après, J'imagine que s'il a fait ça, c'est que ça le satisfait, ça satisfait l'OM. Voilà, j'espère qu'il a pas fait ça pour remonter dans l'estime des supporters et du reste et de ci et de là. Enfin, j'en sais rien. Quel est le but de ce de cette
chose-là ? Est-ce qu'on n'est pas le seul pays au monde où on peut se poser la question si tu remontes dans l'estime de quelqu'un quand tu baisses ton salaire ?
Ouais,
c'est quand même un délire.
Sincèrement,
t'as vu Bernard ? Il a frappé son ex. Oui, mais il a baissé son salaire. Ah, bon ben ça va. Il remonte dans mon estime. Mais c'est quoi ce concept ? Ouais, ça n'a aucun sens.
Bah, il fait ce qu'on fait. J'ai rien à dire. Ça n'a rien à voir.
Baisser son salaire, il y a qu'en France que ça fait monter dans l'estime de quelqu'un. Moi, il y en a, c'est, tu vois, je sais pas, c'est, tu sauves des vies, tu marques un triplé. Lui, il baisse son salaire, il remonte dans l'estime.
La démarche derrière, c'est pour aider le club, c'est en pensant aux supporters, ça va un peu plus loin.
Est-ce que t'es sûr que c'est ça?
Lorsque le club lui avait demandé de baisser son salaire, c'était ça l'idée. Le club traverse une période de crise, demande un effort à tous ses salariés.
Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Et les joueurs ont refusé. Et là, c'était un autre dossier, celui de la prolongation de contrat.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors?
Tout le monde voit son, il a vu son compte, il a trouvé son compte. C'est-à-dire que l'OM arrive à baisser le salaire de Payet immédiatement. C'est-à-dire que la saison prochaine, il ne touchera plus les 500 000 par mois, mais la moitié. Et Payet, il a un contrat assuré
moins,
pendant 4 ans.
30% en moins.
Non, l'année prochaine, c'est 50% en moins.
50, d'accord.
Et après, ça passera à 30.
D'accord.
Donc, Payet, il a un contrat assuré pendant les 4 ans qui viennent. C'est-à-dire que l'argent qu'il devait toucher à l'issue des 2 ans, il les touchera à l'issue des 4 ans. Et l'OM, ils ont une baisse sur la masse salariale, ce qui est important pour les comptes du club.
Donc, en train de me dire qu'il perd pas d'argent, en fait.
Payet ?
Bah oui.
Oui et non. Aurait pu finir ses 2 ans de contrat.
Il rallonge de 2 ans, mais en fait, il perd pas d'argent.
Il aurait pu finir ses 2 ans de contrat aux conditions actuelles, sans baisser son salaire, et espérer un nouveau contrat derrière, à 35 ans. Et là, il aurait gagné plus.
Oui, dans les mêmes conditions.
Non, pas dans les mêmes conditions. Mais même en baissant un peu, il aurait été plus gagnant qu'actuellement. Oui, Gilbert ?
Moi, mon point de vue, c'est que c'est un énorme coup de com'. Donc, en gros, il aurait touché 12 millions sur 2 ans. Là, il va toucher 13 millions 2 sur 4 ans.
Oui,
donc, en fait, ça arrange l'OM. Lui, ça l'arrange parce qu'il s'achète la paix avec son club. Qui va pas tenter de le vendre d'estivir pour se débarrasser d'un gros salaire, ou en juin prochain pour se débarrasser d'un gros salaire, ou dans un an et demi pour se débarrasser d'un gros salaire. Voilà, il a une lisibilité tranquille sur 4 ans. Bon, il s'achète en plus une crédibilité avec les supporters qui vont dire « Oh, regardez, oh, magnifique et tout !»
Excuse-moi, Payet, il a 33 ans, c'est-à-dire que Payet va jouer au foot jusqu'à 37
mais
ans.
Oui, c'est franchement, du gars, t'as un contrat comme ça, mais tout le monde le signe dès demain quand t'es footballeur à 33 ans.
Il fait vous ne voyez pas l'arnaque,
c'est
dans 2 ans.
Extraordinaire et
il est vendu 5 millions au Qatar. Dans 2 ans, il est vendu 5 millions au Qatar et tout le monde est gagnant et lui, il reprend un gros salaire derrière.
Ou en Chine.
Franchement, ben oui. À 35 ans, ça, il va être cramoise en Ligue 1.
Ça, c'est pas son intérêt. Parce
mais s'il a un plus gros salaire ailleurs, s'il refait une bascule encore.
Dans ce cas, il a fait une erreur en prolongeant son contrat. Il aurait pu rester avec ses 2 ans à 500 000. Et à la fin
mais parce qu'il a envie quand même de faire la Ligue des Champions. Il aime un peu le foot quand même.
Attends, Gilbert. Julien, ça n'empêche pas. Il aurait pu faire ses 2 ans au salaire actuel. Et ensuite partir au Qatar.
Oui, mais comme dit Gilbert, au bout d'un an, il y aurait une ambiance de merde. Au bout d'un an, il y aurait une ambiance de merde à l'OM.
Donc s'il y a la reconversion, c'est qu'il n'a pas pour intérêt, il n'a pas pour envie de partir au Qatar.
La reconversion du gars, j'attends de voir ce qui va se passer parce que c'est bien joli de promettre des reconversions 4 ans avant à quelqu'un.
Ce sera même plus Jacques Henriot le président.
Voilà, peut-être que ce sera même plus le même propriétaire. Tu sais, Payet pour faire quoi? Peut-être que lui-même ne sait même pas ce qu'il veut faire.
Recruteur.
Et est-ce qu'il serait bon pour être recruteur? Tu le sais pas. Est-ce qu'il serait bon pour être entraîneur?
Cuisto.
Tu le sais pas. Est-ce qu'il serait bon pour être cuisto? Tu le sais pas. Ça, c'est des promesses un peu en l'air en fait parce que finalement. Combien de fois t'as eu des mecs qui sont
allés dans un exemple
truc mûche.
Rio Mavouba.
Au final, rien.
Rio Mavouba à Lille, on lui a promis d'avoir un projet de reconversion, qui reviendrait au club après une dernière année, je sais plus où. Et à l'arrivée, rien.
Bah voilà.
Donc, effectivement, c'est pas tout le temps facile.
Paoletta au PSG, on les avait vendus. Vous allez voir, il va faire plein de trucs. Il a rien fait du tout.
Oui, il a été ambassadeur.
Bah ouais, super. Alors quand on dit ambassadeur, c'est que tu fais rien en fait. C'est ça le principe, Julien. Ça
bon, exactement.
Mais moi, je veux bien être payé, rien foutre, être ambassadeur, ça me plairait.
Manu,
ah oui, c'est vrai.
Manu, comment tu vois les choses? Alors,
moi, pour répondre à ta question initiale, oui, qu'il est remonté dans mon estime, non, parce qu'il n'est jamais descendu. Parce qu'en fait, déjà, quand la polémique est née il y a quelques semaines par rapport au fait qu'il ne voulait pas baisser son salaire en pleine pandémie et les difficultés de son club. Dugal l'a dit, mais je vais rajouter une couche. On est dans un pays où on est toujours prompt à donner des bons conseils aux autres par rapport à l'argent qu'ils gagnent et jamais à se l'appliquer à soi-même. Donc, on sait que l'argent est un sujet extrêmement sensible en France. et qu'il faut surtout pas en parler, surtout quand ça concerne soi-même. Donc il a le droit de faire ce qu'il veut avec son pognon. Il a signé un contrat. Après la pandémie, regarde, ça a frappé le monde entier, ça a bouleversé un nombre incalculable de secteurs d'activité économique. Donc le football, encore une fois, on était en première ligne. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça.
Il y a beaucoup de joueurs à l'étranger qui ont fait des efforts.
Il y a beaucoup de joueurs dans l'Europe du football qui ont été extrêmement généreux pour la population. La plupart n'en ont pas parlé. Donc les médias n'en ont pas parlé non plus. La preuve, à chaque fois que les médias parlent d'un joueur de foot et en ce qui concerne l'argent, c'est toujours sur des mauvais messages à envoyer en permanence, toujours pour essayer de grossir à la loupe ce qu'on ne voit pas derrière. Donc moi, quelque part, je me dis non, il n'est pas descendu de mon estime parce que il est toujours resté le même. Moi, je trouve que globalement, il a toujours une bonne image de Dimitri Payet et que finalement, il a bien mené sa carrière. J'étais plus déçu lorsqu'il est parti de West Ham que lorsqu'il a refusé de baisser son salaire pour Marseille.
Oui. Le malheur de Payet, au-delà de l'argent, okay, moi je trouve que c'est un bon joueur, hein, mais vous savez que ce gars-là n'a rien gagné. C'est terrible.
Ah oui,
palmarès, Manu. Lui, il a gagné la Coupe de la Réunion.
Ah oui,
c'est terrible. C'est des fois, t'as pas de chance, en fait. Tu tombes pas dans le bon club au bon moment.
Oui, mais alors ça, est-ce que c'est vraiment pas de chance?
L'Europa League?
Ah, non, c'est pas des choix de carrière.
Est-ce qu'une carrière de footballeur, c'est une carrière réussie parce que t'as joué tant d'années ou alors parce que t'as gagner ton argent ou est-ce que c'est parce que t'as eu un palmarès? Je sais pas. Bon, pose la question.
Les deux, il y a des très bons joueurs qui ont pas gagné grand chose, comme des bons entraîneurs qui n'ont rien gagné non plus.
Hein, tu sais, Gilbert, tu sais stupé du nombre de joueurs que j'ai rencontrés dans ma carrière qui se foutent royalement d'avoir un palmarès sportif à partir du moment où leur compte en banque était rempli.
Merci pour ton honnêteté.
Ah oui, alors ça c'est le côté compte en banque.
Ah, mais l'honnêteté, c'est les noms.
Il faut des noms. C'est vrai que c'est intéressant.
Il y a aussi des joueurs qui ont un beau palmarès sans avoir fait une grande carrière.
Ah, oui, allez, bam. Allez, juste avant qu'ils partent. Sympa pour du gars. Ça, c'est vraiment affreux, quoi. Mais c'est terrible, hein. On peut pas te laisser tranquille, quoi.
Ce qui est terrible, c'est qu'un humoriste comme toi se réfugie derrière moi pour cette vanne.
Un pseudo humoriste, un pseudo.
Il pourrait assumer tout seul.
C'est la lâcheté, c'est un art, hein.
Oui. C'est vrai. Bon, et alors juste sportivement, de se dire que Payet va rester jusqu'à 37 ans à l'OM, ça vous choque?
Moi, je me dis bonne chance pour lui parce que le physique et lui, ça a toujours été une équation qui était un peu compliquée la plupart du temps. Donc on sait que c'est un garçon qui a besoin d'être toujours dans une bonne condition physique pour faire parler ses qualités sur le terrain. Pour moi, c'est surtout si tu te projettes dans les mois, dans les semaines à venir du côté Olympique Lyonnais, qui sait si ma course va pas vendre son club dans les prochains mois. Donc ça peut très bien être remis en question tout ça. Donc quelque part, il y a quand même beaucoup d'incertitudes aujourd'hui qui entourent le projet de l'OM, quoi. Et avec Payet dedans, quoi.
Oui, ça c'est sûr.
Moi, je pense que l'agent de Payet est très fort. Faut le féliciter. Je ne sais pas qui c'est. Mais enfin, avoir fait cette proposition arrangeante pour le joueur et acceptée par le club.
Non, non, Gilbert, c'est l'agent de Braithwaite qui est très fort. Jean de Payet, il est pas mal.
Loïc nous rejoint au 32-16. Salut Loïc, bienvenue dans Team Luga.
Salut Mathieu.
Salut Loïc. Bon, en tant que supporter de l'OM, t'es content d'avoir Payet encore 4 ans chez toi?
Content, en condition d'avoir un Payet au mieux de sa forme. Parce qu'on sait que quand physiquement il est en forme, la qualité technique est liée. Donc après le problème c'est que quand physiquement il commence à être dans le dur, on défend plus qu'à 10. Donc c'est compliqué.
Ouais. Après c'est un joueur qui est capable, qui a du coffre, qui a carrément. Il est capable de courir et d'enchaîner, hein.
Ouais, mais justement il faut qu'il enchaîne après. Après il a pas eu de chance quand il revient de sa suspension. Il prend, je crois, 3-4 matchs suspension, un truc comme ça. Après, il y a la trêve internationale, il a du mal à enchaîner, mais on sait que quand il enchaîne des matchs et que physiquement il est prêt, c'est un excellent joueur. Après, est-ce qu'il va avoir un objectif de l'Euro l'année prochaine? Ce serait bien, ce serait un leitmotiv pour se donner un peu plus. Et après, le coût de baisser son salaire sur les années à venir, je trouve ça louable, à condition que ce soit pour de vraies bonnes raisons. Pas pour s'acheter la paix sociale, pas pour dire, regardez, moi je fais des efforts, et les autres, for rien. Sachant qu'au début du Covid, il n'a pas voulu baisser son salaire parce qu'il avait des traites à payer, comme nous tous, d'ailleurs.
Oui, alors là-dessus, Loïc, effectivement, on m'interpelle sur Twitter, donc je le dis quand même, il l'a dit dans sa conférence de presse samedi, lui, il est la tête de 3 sociétés, il y en a une qui a dû fermer, et donc baisser son salaire, ça voulait dire aussi peut-être fragiliser ses sociétés. Donc,
ah
voilà.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà, je veux dire, quand on touche un joli salaire, certainement il ne met pas tous les mêmes œufs dans le même panier, ce qui est judicieux, parce qu'après, quand tu arrives à la fin, peut-être tu t'es tout fait bouffer. Voilà, maintenant, il faut que ce soit des choses cohérentes, et parce qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'au stade, c'est des mecs qui touchent le SMIC, hein, qui vont l'encourager, c'est des mecs qui touchent le SMIC, qui achètent les maillots pour les minots à Noël, et ainsi de suite. Donc, peut-être on est dans deux mondes différents, le monde du football et nous, le restant du peuple. Quoi.
Merci Loïc d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu
Bonne
veux, bien sûr, pour parler
Bonne
de
soirée,
l'OM.
Loïc.
On a parlé à 18h du dossier vente de l'OM et des avances faites par Mourad Boudjelal et le repreneur franco-tunisien qui va avec lui. Je voulais juste votre avis sur le dossier Manu et Gilbert. Manu, comment tu vois les choses ?
Moi, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Moi, je suis pour ce genre de personnage charismatique, un peu trublion, qui a un peu bouleversé les codes, un peu bien défini. On l'a bien vu encore pendant la période de pandémie, que c'était un peu la cacophonie au sein de la gouvernance française. Donc, on a vu ce qu'il était capable de faire dans le rugby à Toulon. Après, ça me rappelle un petit peu des présidents hein, qui c'est un peu avec de la gouaille, avec de la personnalité
un peu à l'ancienne.
Oui, un peu Lou Nicolin, des Bernard Tapie, ce genre de profil, ça manque quand même cruellement dans le paysage français. Donc ça vient un petit peu déstabiliser un petit peu l'ordre établi. Donc
moi, à la différence près que eux, puis, c'était leur argent, ce que tu cites. Il y a là, ça. Ce serait pas le cas.
Oui, mais en même temps, il a les compétences. Il l'a fait déjà dans le rugby. Il a gagné des coupes d'Europe avec Toulon. Derrière, tu sens que en plus d'être un entrepreneur, c'est un garçon qui est passionné aussi par le sport et notamment le football. Donc ces deux données qui sont indispensables pour réussir dans le football. Mais c'est surtout un chef d'entreprise qui a quand même les pieds sur terre, même s'il a une personnalité qui dérange. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, pour nous, médiatiquement.
Sauf que, excuse-moi, la différence, c'est qu'un milliardaire au rugby, c'est un smicard au foot. Hein. C'est-à-dire qu'il va changer de... Là, c'est fini, là. Avec son argent, il arrivait, il pouvait acheter les meilleurs joueurs du monde au rugby, mais alors, au foot, il peut s'acheter les mecs du Mans, quoi.
Ça, c'est sûr que c'est différent. Mais la différence, c'est qu'à Toulon, c'était son argent, et là, il viendrait avec des investisseurs qui, eux, auraient les moyens d'acheter.
T'es au courant que le fair play financier a disparu? Je suis pas au courant, moi.
Bah, disons qu'il
a... Tu peux arriver et mettre de l'oseille.
C'est différent.
Ah oui, mais tu vas acheter cher des parts d'un club, mais tu peux pas mettre des centaines de millions dans les transferts, sinon le Qatar il le ferait, les gars.
Ça c'est autre chose.
Non, mais tu peux commencer déjà à éponger les dettes.
Oui, voilà. Tu peux déjà relancer le club.
Ouais, mais je veux dire, faut pas s'enflammer. Il y a les mecs qui rêvent, mais même si le mec il veut mettre 500 millions pour acheter les joueurs, il peut pas.
Oui, quand faut le dire aux gens. Le club est en Coupe d'Europe, bien sûr, oui.
C'est
financier, c'est un peu assoupli quand même. Mais bon, tu as
assoupli.
Gilbert, ce qui serait bien, c'est que médiatiquement, en tout cas, nous, on se régalerait.
Nous, on se régalerait. Moi, j'aimerais bien. Effectivement, la perspective de Boudjelal face au PSG, Boudjelal face à Jean-Michel Aulas, c'est
énorme. Là, ça peut être énorme.
Puis Marseille avec des moyens aussi qui peut réaliser.
Attention, je me méfie parce que vous savez, l'OM est le club qui draine le plus de mythos depuis le début de son histoire. Jack Cashcar. Rappelez-vous l'histoire des Bolivars avec des Corses qui voulaient racheter l'OM à l'époque avec de l'argent vénézuélien dans les années 80. Eric Dimeco nous avait raconté ça, une histoire incroyable. Bref, attention, comme le dit Jean-Louis, Boudjelal ne serait pas le propriétaire du club. Boudjelal, il a quand même la capacité à s'engueuler avec la terre entière au bout de 15 jours. Rappelez-vous, quand il était dans le rugby, il était en guerre avec tout le monde, la Fédé, la Ligue, les autres clubs. Bref, c'était terrible. Il a eu des résultats, mais là, Boudjelal ne serait pas le propriétaire. Les rapports avec le propriétaire, franchement, tu donnes combien de temps avant que ce soit compliqué? Très franchement, moi
Mais Marseille a toujours été un club relativement instable. Donc, moi, vu sa personnalité, il est quand même bouillant. Ça collerait parfaitement.
Attendez, que lui vienne dans le foot, c'est top. Mais ce serait mieux qu'il soit propriétaire, en fait.
C'est un milliardaire tunisien qui vient d'Arabie Saoudite. C'est pas Ben Ali, quand même, qui revient dans le game. Non, c'est pas lui. Ce serait génial.
D'ailleurs, vous avez cité les présidents à l'ancienne et tout. Boudjelal, il a cité en exemple Bernard Tapie, hein, tout à l'heure, dans le Super Moscato Show. En disant, quand il a pris l'OM, c'était un peu de la même façon.
Il est très fort en com, en fait. Ah oui, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'à Marseille, tu peux te reprendre le bâton dans la tronche. Hein.
C'est vrai, sur la com, si tu te rates un peu.
Ouais. Ah bah là.
Dans un instant, messieurs, Karim Benzema. Donc, on revient sur son match d'hier, la fameuse talonnade. Et puis, on revient sur ce débat du 29 mai 2018 que l'on refait dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h24, Team Dugas continue avec Gilbert Bribois, Emmanuel Petit, Julien Cazard, Jean-Louis Tour. Ça va être le moment de revenir sur un débat qui a chauffé il y a quelques mois de ça.
Exactement, alors il y aura le blind test également, hein, 32-16 pour vous inscrire. Et avant ce débat, on va quand même accueillir Fred Hermel qui participera aussi au débat puisqu'on va parler de Karim Benzema. Fred, bonsoir.
Hola chicos.
Salut. Quand même.
Attends, refais-nous hola chicos parce que t'étais fermé au début.
Non mais je commence déjà, mais pourquoi quand même Fred Hermel? T'as un doute? Hola chicos. On est obligé, vous comprendez? Enfin, c'est, tu vois.
Bah, c'est inévitable. Quand Benzema fait un truc comme il a fait hier, forcément il y a Fred Hermel sur RMC.
Non mais c'est le quand même qui m'a, je sais pas, c'est, je sais pas.
T'es susceptible.
Ouais, c'est ça, c'est la chaleur, je suis la chaleur.
Quand même.
Quand même, je suis susceptible. Alors, là, chicos.
Avant de refaire donc ce débat sur Benzema, ce débat qui a malheureusement scellé une amitié de longue date entre Dugas et Didier Deschamps. Eh bien, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Donc, on va en dire un mot. Benzema, donc, j'allais dire buteur, non, mais qui fait quand même le geste décisif lors de la victoire du Real sur le terrain de l'Espagnol Barcelone 1-0. Ouais, là, Dugas, on y est. Hein.
Ouais. Ouais, là, c'est pas décisif.
Ouais, c'est pas Jérôme Bretagne qui décale le ballon sur un coup franc en direct. Quoi.
Voilà, t'as compris.
Non mais là, ça t'a, là du gars, je sais pas si t'as vu le match en direct, mais
oui,
là,
oui,
tu te lèves,
j'ai regardé ça. Ah non, mais j'ai trouvé ça incroyable. Il a inventé une passe. Enfin, c'était extraordinaire. Puis ce ballon qui arrive parfaitement pour Casemiro, qui a plus qu'à le pousser dans les buts. C'est sur.
Ça va vite en plus.
Non mais il est dos au but. Le ballon qui l'hérite, il sert à rien. Arrive à le transformer en quelque chose d'efficace et décisif. Enfin, c'est magique.
Tu sais ce que j'aime bien, moi, dans ce but-là, en dehors du geste de génie de Karim Benzema, c'est le fait que Casemiro sait qu'il peut la donner à ce moment-là.
C'est ça, moi. Ouais, faut le sentir le coup quand même. Hein.
Voilà.
Non mais c'est vachement important ce que tu dis, Manu, parce que c'est exactement ce qu'a dit Casemiro après le match.
Ah oui.
Casemiro a dit bah, mais je savais que Karim était capable d'inventer un truc dingue, donc je me suis présenté comme si le ballon allait venir quoi qu'il arrive.
Faut se mettre Karim Benzema quand il est coincé le long de la ligne, il invente des choses, il est capable.
Hein. Oui, tu penses à l'Atlético là.
Oui.
Je trouve que le geste de l'Atlético est encore plus fort. C'était demi-finale de Ligue des Champions que celui d'hier soir, quoi. Et l'importance quand même là. Le Real a gagné 15-0, donc c'est un match compliqué chez le dernier qui jouait ses derniers espoirs de rester en première division.
Fred, quand tu dis ouais, tu trouves que c'est plus fort contre l'Atlético Madrid parce que c'était une demi-finale Champions League. Je te rappelle quand même que ce qu'il a fait hier, ça a permis au Real Madrid d'être leader de Liga.
Du geste technique.
Oui, oui.
Qui était plus fort.
Je crois que c'est encore plus dur ce qu'il a fait contre mettre dans le vent Savic, Jiménez et Godin, alors que le Real, qui avait gagné 3-0 au match aller en demi-finale des champions, était mené 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et là, ça y est, il a tué l'Atlético avec ce geste, quoi. Donc, mais bon, Karim est capable de faire des choses hallucinantes et n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Il est totalement libéré.
Juste avant,
tout.
Est-ce qu'en Espagne, on a remis, du coup, au goût du jour, la talonnade que Guti avait fait pour Zidane, pour Benzema?
C'était au tout début de Benzema au Real. Guti se présente dans la surface, il peut frapper au but. Il sent à l'aveugle que Benzema est derrière, il lui fait une super talonnade et Benzema marque. Et pendant la retransmission, pendant le match en fait, Guti a fait un tweet pour saluer Benzema. Donc voilà, ça a été comparé. Et on a d'ailleurs comparé une autre talonnade que je dois dire que j'avais oubliée, réalisée par Guti à Zidane, joueur.
Ah oui.
Mais oui, qui était sinon super,
dont je me rappelle plus moi. Bah, celle-là, on l'avait ressortie quand il l'avait fait à Benzema.
Mais là, c'est pas le coup. Guti, en fait, il a le but vide devant lui.
Pour Benzema, c'était ça, oui.
Il est en face à face avec le gardien. Pour Zidane, on a l'impression qu'il s'en va, qu'il retourne dans son camp, et là, il sort une talonnade extraordinaire. Mais ce qui se passe avec Benzema, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne peut l'atteindre. C'est-à-dire que, je sais pas, un état de grâce qui dure depuis un an et demi, en disant, voilà, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, parce que il joue tous les matchs, là, quand même, hein. Il a enchaîné 5 matchs en 2 semaines. Ouais. Et ils sont très peu, hein, à avoir fait ça au Real. T'as Varane, Courtois, Ramos, et lui, il me semble.
Casemiro.
Casemiro s'est même reposé un match.
D'accord.
Et c'est Carvajal, voilà, c'est Carvajal, donc.
Et pour toi, Fred, c'est le meilleur joueur du monde, actuellement?
Depuis le retour du confinement, depuis la reprise de plusieurs gros championnats, à part le nôtre, je vois pas qui.
Bah, en même temps, il n'y a pas Mbappé et Neymar qui jouent, donc déjà, ça en fait deux de moins. Hein.
Bah, ça en fait deux de moins.
Il y a Lewandowski, par exemple, qui joue.
Au Bayern.
Ouais, alors Lewandowski, il est très fort.
Pas mal, il met des buts aussi. Hein.
Il met beaucoup de buts. Mais au niveau du jeu.
Ça, là, a du mal. Donc,
De l'implication dans le jeu, de ce qu'il réalise. De tout, franchement, c'est vraiment Benzema qui est au-dessus de tout le monde. On va me dire Messi va pas très très bien. Il a quelques fulgurances, mais en plus Messi avec son équipe, il a perdu 4 points en 5
Fredo, contre, donc. On le verra contre City, hein. C'est là qu'il faut faire la diff. Hein.
Oui, il est match retour. Hein.
Non, ce qui est vrai, c'est que là, ça a pas trop d'importance d'être meilleur joueur maintenant, quoi.
Contre City, il faudra être le meilleur joueur du monde là. C'est là.
Même, il y a une Liga à gagner quand même du côté.
Oui, non, mais le meilleur joueur d'Espagne suffit là pour l'instant.
Mais je parle du titre de meilleur joueur du monde actuellement.
Oui.
Mais sincèrement, enfin, on compare ce qu'on peut comparer dans une situation qui est très différente. Alors, c'est bizarre de se dire le meilleur joueur post-Covid, enfin post-confinement, mais qu'est-ce que ça révèle aussi sur Benzema? C'est qu'il est aussi fort physiquement qu'avant le confinement. Ça veut dire qu'il a aussi une manière de travailler tout seul chez lui. qui je mets, permet
je mets un bémol,
Fredo,
tu m'excuseras, je mets un bémol quand même.
Vas-y.
Parce que trois mois de confinement, ça rabat les cartes à tous les niveaux. Que ce soit mec qui a été blessé pendant trois mois, qui reprend au même moment, il n'a pas le retard accumulé par rapport à ses coéquipiers. Donc, on a l'impression que tout le monde repart un petit peu sur des bases relativement équitables. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui a pas une grosse préparation, on peut pas le voir tout de suite sur le terrain parce qu'il y a tellement de problématiques aujourd'hui à gérer, ne serait-ce que dans la préparation physique mais également psychologique par rapport à la reprise, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux pas dire lui il est en super forme par rapport à ce qu'il faisait auparavant parce que tout est dilué aujourd'hui.
Bah oui, mais sauf que Benzema, je vois exactement le même joueur en plus fort.
Moi, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec toi, c'est son relâchement. J'ai l'impression qu'il a, il est arrivé à une certaine plénitude, une certaine sérénité. Où il, aujourd'hui, il a plus rien à prouver. Il a déjà, voilà. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, mais ça, je j'oserais même dire, il en a plus rien à foutre de ce qu'on peut dire de lui.
Exactement.
Il en, tu vois vraiment le côté, mais allez-y, quoi, attaquez-moi. Enfin, il est heureux, il se relâche, il est, puis il est adulé dans le vestiaire comme jamais. Et puis, enfin, c'est quelqu'un qui, en plus, vraiment, parce que je le sais, parce qu'il me le dit, parce que j'en parle au sein du club, il travaille plus que tout le monde.
Il s'est inspiré de Cristiano Ronaldo, tu penses, non?
Ah, mais moi, je me souviens très bien de ce
qu'il m'a dit. Ah, bah, il s'est pas inspiré de Snyder, hein.
Ça, c'est sûr. Alors, ouais, Snyder qui a quand même fait l'interview l'autre jour,
oui,
qui a démenti, franchement, qui a démenti cette information infamante que j'avais moi-même diffusée pendant des années. On l'avait dit, on l'appelait Whisky Schneider, et il a avoué là il y a trois jours que c'était pas du whisky, c'était de la vodka. Que exactement. La vodka Madrid est très bonne. Je n'invente rien.
Hein, il a dit que c'était sa meilleure amie la vodka.
Ah ouais. Donc moi je me disais que c'était du whisky. Lui, donc je voudrais m'excuser pour cette erreur.
C'est bien.
Voilà,
il faut
pas être au bon endroit pour vérifier.
Alors. Voilà pour l'actu, voilà pour ce qui s'est passé donc en 2020, le 28 juin. Revenons désormais au 29 mai 2018. On est quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde et deux semaines après l'annonce de la liste des Bleus. Il n'y a pas dans cette liste Karim Benzema. Petit extrait de Tim Dugas à l'époque.
Dugas, il a son émission de radio, il fait ce qu'il veut.
L'argument de Deschamps, il prend pas Benzema parce que sportivement, il en a pas besoin.
À partir du moment où on franchit la ligne blanche et il n'y a pas le minimum de respect sur le plan humain, c'est pas le fait de critiquer ou pas critiquer.
Il faut que Dédé aille très loin en Coupe du Monde, parce qu'il faudra assumer aussi ce choix.
Il ose dire que je prends la France en otage.
Parce que là, c'est quand même, on prend un petit peu en otage l'équipe de France.
Ça dépasse tout entendement.
Je pense que c'est plus dans l'intérêt de Deschamps que dans l'intérêt de l'équipe de France de ne pas le prendre une nouvelle fois, mais c'est comme ça.
Voilà, donc ce débat, cette prise de position de Dugas. Ça va pas être chaud. Alors c'est le principe, déjà je le rappelle. Pendant les deux semaines qui viennent, on va revenir sur des débats forts de l'histoire de Tim Dugas. Et donc ce soir-là, après la liste de Didier Deschamps, Dugas, tu as cette prise de position. Alors ça arrive quand même après plusieurs incompréhensions avec Didier Deschamps, notamment sur le cas Karim Benzema. Pendant longtemps, tu lui as reproché de ne pas expliquer à Benzema pourquoi il ne le prenait pas en équipe de France. Et puis ce choix, tu as eu du mal à le comprendre également sportivement. Alors à l'époque, donc, tu avais dit cette phrase, Deschamps prend l'équipe de France en otage en ne prenant pas Benzema. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que deux ans après, je sais pas, tu regrettes cette phrase, tu dirais différemment?
Je crois pas. Hein.
Bah déjà, si non, on a été pris en otage, là, on a eu le syndrome de Stockholm hein, au final. Hein.
Je crois pas. Parce que moi, ce qui m'a agacé depuis le départ. Alors après, Deschamps se sert de cette phrase pour dire que ça l'a offusqué, que c'était incroyable, que j'en peux pas dire ça. Écoute, je peux dire déjà ce que je veux. Et je suis désolé, mais le cirque qu'il y a eu entre Benzema, Deschamps et Le Graët pendant des semaines, voire des mois, sans qu'aucun n'ait le courage de dire exactement comment sont les choses, de s'appeler pour dire les choses et de nous balader. C'est-à-dire qu'on nous a fait quand même croire pendant des mois et des mois que Benzema était sélectionnable jusqu'à qu'il ne le soit plus, le redevienne et ne le tait plus. Donc j'ai trouvé que Deschamps avait une dent contre Benzema et Benzema avait une dent contre Deschamps. Le pourquoi du comment, sincèrement, moi j'en avais rien à foutre, mais j'en avais aussi ras-le-bol, comme m'explique que Karim Benzema était sélectionnable, mais on le sélectionnait pas parce que sportivement, parce que si, parce que là, alors qu'il était toujours aussi compétitif, c'était tout simplement insupportable. Donc il y avait une espèce de double, triple, quadruple langage avec le président Le Graët qui était tout simplement insupportable. Et moi, sincèrement, je me suis senti otage d'un problème entre Deschamps et Benzema qui ne regardaient pas l'équipe de France. Voilà, qu'ils avaient qu'à régler leur problème entre eux. Deschamps avait qu'à appeler Karim Benzema en lui disant, voilà, je te sélectionne pas pour tel
telle et telle raison, et le problème Benzema était réglé depuis le début, et là personne n'avait rien à dire, sauf que ni Deschamps ni Benzema n'ont eu l'envie, le courage, la décence, le respect de s'appeler pour se dire les choses. Chacun y était avec ses petites phrases. Oui, mais il a dit ça. Non, mais l'autre, il a redit ça. Nanani, nanana. Ils nous ont fait chier. Ils m'ont fait chier avec. Non, mais.
Alors, non, mais là où t'as raison, il y a eu des interviews qu'on a pu faire, que ce soit Deschamps ou De Gret, où ils nous disaient Benzema est sélectionnable. Bon, ils nous l'ont martelé. Alors que bon.
Ils nous ont saoulés. Donc, ils se sont. Je sais pas, il y avait une espèce de. C'était de la communication. Donc, pour moi, c'était une espèce de prise d'otage, là, d'un conflit qu'il y avait à régler, mais qui était tout simple à régler. Mais non, on préférait jouer le bon flic, le mauvais flic avec le Gret qui était derrière, qui allait aussi lui-même de sa déclaration. Donc ça ressemble à rien du tout. Donc on m'a imposé mais, ce débat mais gars, avec Benzema qui m'a saoulé, qui m'a gonflé. Donc j'en avais marre. Au bout d'un moment, j'ai dit mais putain, mais
qu'est-ce qui te dit, oui, qu'est-ce qui te dit vraiment qu'il en voulait vraiment de Benzema? Est-ce que en fait, c'était pas aussi un prétexte pour se dire moi, ce mec-là, parce que lui, comme il veut pas jouer avec beaucoup d'avant, regarde, honnêtement, mais il aime pas jouer avec beaucoup d'attaquants. Non mais je te dis, il aime pas jouer beaucoup d'attaquants. Et oui, mais donc ça l'oblige à mettre une star sur le banc, ça le fait chier. Donc c'est il bien. Le prend pas. Et voilà, mais, c'est réglé.
Mais écoute-moi.
Et il est champion du monde.
Mais y a pas
et on est tous à point sur les Champs-Élysées.
Mais non, mais arrête avec la flemme. Mais il est champion du monde, donc il a eu raison.
Mais non, mais c'est tout. Mais non, mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est toi. Non, il faut qu'il aille au bout. T'as dit, il faut qu'il aille au bout, sinon il va falloir assumer.
Oui, non, mais il est allé au bout. Assumer encore aujourd'hui. Pourquoi Benzema, il fait pas partie de l'équipe de France quand t'as envie de te régaler et regarder des matchs de football de l'équipe de France? Ça suffit pas de dire, il est champion du monde, donc il a forcément raison.
Non,
mais oui,
je
mais.
Dis que je pense que lui, ça l'arrangeait qu'il soit pas.
Mais est-ce que c'était pas plus. Mais pourquoi ça l'arrangeait? Pourquoi, excuse-moi, pourquoi on peut
parce
pas avoir.
Parce que dans
avoir,
son schéma de jeu,
non, laisse-moi pas finir. Pourquoi on peut pas avoir un minimum de couilles dans sa vie? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Benzema, tu le veux pas.
Il a jamais été comme ça.
Mais le problème, il est là. Benzema, au bout d'un moment, tu l'appelles et tu lui dis, Karim Benzema, je te prends pas pour telle raison. Voilà, point à la ligne. Moi, j'en ai rien à foutre de l'histoire de Benzema, de l'histoire de Deschamps, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment ou un autre, est-ce qu'il est possible quand un garçon qui a 80 sélections, qui a gagné 3 Ligues des Champions ou 4 Ligues des champions, plutôt que de faire une espèce de communication en bois, la com de Deschamps, une espèce de communication en bois pour pas avoir les coronets d'appeler Benzema pour lui dire voilà, je te prends pas. En plus, toute l'opinion publique était derrière Deschamps à cette époque-là. Tout le monde était d'accord pour pas reprendre Benzema. Donc, il y avait aucun problème si ce n'est d'appeler le mec pour lui dire je te prends pas.
Et moi, pendant longtemps, il lui a fait confiance. Il l'a pris. On peut pas dire que Deschamps soit un anti-Benzema sportivement. Pendant longtemps, il lui a fait confiance.
Je pense qu'il s'est senti trahi et après, il a pas lâché.
Oui, alors évidemment, ça sur le fond, Julien, t'as raison. Il y a eu l'histoire de l'interview dans Marca, on connaît tous l'histoire. Hein. Mais ce que tu lui reproches, toi, du gars, c'est vraiment ça. Et surtout que juste l'interprétation de « il prend l'équipe de France en otage », c'était sous-entendu, il ne donne aucune explication autour de ça. Donc, il fait ce qu'il veut de l'équipe de France. Exactement. Et ça, t'as pas trouvé ça normal.
Exactement.
Voilà. Manu, ça te fait quoi d'en entendre ça, 2 ans après?
Alors... Autant je suis d'accord sur la cacophonie en ce qui concerne la communication qui a entouré le cas Benzema pendant pas mal de temps, que ça soit la sextape avec Valbuena entre autres, ou les déclarations de Karim avant l'Euro 2016 où il dit concrètement que Didier Deschamps a cédé à la partie de la raciste de la France. Autant l'affaire était en instruction du côté de la justice, donc on pouvait pas se prononcer non plus du côté de la Fédé. Autant j'ai trouvé, là je suis d'accord avec Dugas sur la communication qui a été désastreuse de la part de la Fédé et de son sélectionneur, comme si tout le monde marchait sur des œufs et qu'on avait le sentiment qu'on n'était pas dans un problème purement et seulement sportif, mais qu'on touchait la sphère sociale et que ça devenait anxiogène. Autant je considère aussi qu'il y a des grands joueurs qui ont connu une fin tragique aussi en équipe de France pour X raisons, qui n'avaient pas de lien directement avec le terrain proprement dit. Que ça pouvait être aussi un des vecteurs qui concernait l'image, le comportement, une adéquation aussi. On sait très bien, Dugas, tu le sais, quand tu es appelé en sélection, tu n'es pas dans la même circonscription que d'un club où tu dois vraiment te fondre. Tu as l'image aussi qui rejaillit du pays. On n'est pas dans les mêmes thématiques.
Mais Jacquet a appelé Cantona pour lui dire.
Allez le voir même.
Ouais, mais rappelez-vous, a été le voir pour lui expliquer.
On se rappelle du sac à merde aussi.
Moi, c'est la seule chose que je demande de
Cantona. Ginola
aussi.
Il y a moins, je crois.
Ou même Nico Anelka, pareil. C'est très très mal terminé. Donc.
Oui, moi, certains sélectionneurs considèrent qu'ils n'ont pas à se justifier.
Et je vais revenir justement, ça sera mon dernier argument. Là où je dis que Didier Deschamps n'a pas pris l'équipe de France en otage par rapport à Karim Benzema, c'est que les résultats lui donnent raison et que finale de 2016, vainqueur en 2018, tu te dis que quand tu regardes les stats aussi de Karim avec l'équipe de France, on est loin du statut des stats qu'il peut avoir aussi avec le Real Madrid. Donc c'est deux joueurs qui
ouais, mais ont jamais été aussi fort.
Oui,
c'est mais c'est très fort. Ouais, mais
Fredo, justement, on peut retourner aussi la question dans le sens opposé. Pourquoi pointer un doigt accusateur du côté de la Fédé, de Le Graët, pourtant je le porte pas dans mon cœur, et Didier Deschamps? Et pourquoi on pourrait pas aussi pointer un doigt accusateur envers Karim Benzema en disant est-ce que tu as tout fait aussi?
C'est ce que j'ai fait aussi. Ça, on l'a toujours dit.
Mais Benzema aurait dû aussi pour peut-être prendre son téléphone et régler le problème plutôt que de nous faire chier, de faire chier
ou
tout
faire
le monde
des
avec cette histoire.
Publique, voilà.
Aussi, aussi, voilà, compris, exactement.
Et pas liker dès qu'un mec clash le sélectionneur aussi. Il like à chaque fois le mec.
Tu as raison.
C'est parti des erreurs, oui.
Bah moi, comment tu peux te passer aujourd'hui du mec qui est le meilleur footballeur français?
C'est une tradition française, monsieur. On s'est passé de Ribéry, de Ginola, de Cantona.
Excuse-moi, Gilbert, hein, t'es en face de moi, mais ça, c'est la réflexion typique du supporter de base.
Ah, c'est vrai. Bah, c'est ce qu'on est, hein, nous. Excuse-nous, Manu.
Mettez-vous à la place d'un sélectionnaire. Il raisonne pas comme ça. Lui,
mais
il raisonne en termes.
Il a aussi le droit d'être intelligent et de changer.
Oui, un mais un sélectionneur ne choisit pas les meilleurs joueurs, choisit la meilleure équipe. Tu vois la nuance?
C'est un peu basique, la réflexion de Gilbert.
Non, oui, c'est pas basique du tout. Écoutez-moi. J'ai fait une introduction, fait une introduction, on va dire, qui résumait un peu le truc pour que vous compreniez bien.
Merci.
Maintenant, je développe.
Les footeux,
vas-y, réponds si on t'a pas de face, Gilbert. Réponds si on t'a pas de face.
Développement. Deschamps, dans un premier temps, il le prend. Oui. Après, il le prend plus.
Oui.
Mais en fait, c'est un dogmatique, Deschamps. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit.
Non, c'est un pragmatique.
Non,
c'est un pragmatique de ouf.
C'est un dogmatique, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je le prends plus, et il reste sur sa position. Alors qu'il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Il a des attaquants qui sont moins bons.
Il a eu des résultats ou pas?
Moi, j'aime bien Giroud.
Moi, j'ai juste pour des résultats.
Aujourd'hui, Benzema est meilleur que Giroud mille fois.
Excuse-moi, mais on se trompe de débat. Non, mais Manu, excuse-moi, on se trompe de débat. On a essayé.
Donc, Deschamps, il doit reprendre sa position.
Mais Deschamps nous a fait croire, parce qu'il a jamais expliqué, que c'était pire. C'est que Benzema, il le prenait pas parce qu'il créait des problèmes dans l'équipe.
Ah, ça,
c'est ce qu'il a laissé entendre.
Alors que c'est
ce qu'il a laissé sous-entendre.
Alors
que Karim Benzema n'a jamais aucun problème nulle part où il est passé. Et c'est là que je trouve que c'est malhonnête.
Voilà. Oui,
et c'est là que je trouve que c'est très malhonnête de la part de Didier Deschamps. C'est de ne pas être, clair avec Benzema. Il lui explique, je te prends pas pour telle et telle raison. Et au moins, là, il a laissé sous-entendre que Benzema posait des problèmes en sélection et que ce serait pas possible de bien jouer avec lui.
Oui, alors c'est pas.
Il a sacrifié Valbuena aussi qui avait rien demandé, hein.
C'est pas sportivement,
au passage.
Il y a quand même l'histoire avec Valbuena.
Il a pris très cher.
Il y a eu l'histoire aussi pendant la Coupe du Monde au Brésil en 2014.
Et on sort de 2010 aussi avec ce qui s'est passé, le traumatisme.
Il y a eu des choses quand même.
Il n'y a pas Benzema en 2010.
Et on sort du traumatisme. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a une volonté vraiment d'épurer tout ce qui n'allait pas bien autour de la communication. Et
t'es sélectionneur, tu dois prendre les meilleurs.
Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, Gilbert.
Regarde 98. Son bidon de se passer des meilleurs, on n'est pas obligé de la faire ad vitam aeternam.
On a gagné avec Diomède. Merde.
Non, tu vois, c'est pas bon.
Il
n'a
pas joué.
Ah, pour une fois.
Ah, il a joué. Il a joué, Diomède.
Il a joué un peu quand même. Ouais.
Oui, enfin,
oui. Il a plus joué que Tovin et Rami, hein, je te le dis. Hein.
Mais qui tu prends en 98 d'autres qui n'étaient pas.
Bah, il veut Cantona, Julien.
En 98, mais il joue plus.
Non, moi je veux Ginola. Je veux Ginola déjà.
Mais Ginola, il joue
encore en 98. Pouget est en pleine bourre.
Ta théorie n'est pas claire.
Tony Vérel.
À la limite, j'ai tout la tête de Carambeu, je veux bien.
Tony Vérel et Anelka, franchement.
Oui, tu disais que tu préférais Pierre Lègle à Manu, d'ailleurs.
J'ai toujours préféré Pierre Lègle à Manu. Même la Mouchi, j'ai préféré 100 fois la Mouchi.
Connard.
Mais si je puis me permettre... Parce que on regarde tout de suite, alors même si on est un petit peu dans du souvenir de ce qui est passé il y a 2 ans, là si on se projette, l'équipe de France, dans quel état va sortir Griezmann de ce qui se passe au Barça dans les prochaines semaines? Non mais sérieux, parce que là on se dit, de toute façon il y a Giroud, il y a Griezmann,
dans quel état va sortir Giroud de la concurrence dans son club?
Ouais.
Mais
surtout Griezmann, là. Griezmann, on sait pas, là il est dans un état terrible, là. On sait pas dans quel état va sortir du Barça. Et on va peut-être mordre les doigts de ne pas avoir un Benzema.
Parce qu'on ne verra jamais là, Mbappé, Benzema au top, les deux.
Au Real, oui.
Jamais.
Bah si, au Real.
Ah, au Real, peut-être.
L'année prochaine, oui.
Ah, mais quand même.
Tu vois, tu tends la perche à. Il n'en peut plus, là. Il frétille. Fredo.
Non, je ne frétille pas.
Fredo, c'est impossible que Mbappé parte au Real cette année? Non.
À cet été, c'est impossible. Avec les circonstances, c'est pas possible. Non.
Et autrement, ça aurait pu se faire?
Ah, bah oui. Enfin, en tout cas, Florentino Pérez, il est à fond tout le temps. Hein. Donc, et est-ce que ça,
je crois que lui aussi, hein, Mbappé aussi. Hein.
Mbappé n'a toujours pas prolongé.
Non.
Non plus. Non plus.
Voilà. Non, non, mais c'est.
Non, non, mais c'est fait. C'est fait.
C'est fait. T'es sûr?
On a fait. Ah, on a fait le deuil.
T'as fait nécessaire. T'as fait nécessaire, toi.
Tu as fait la bise et tout. Non, c'est bon.
Ah oui, c'est réglé. Bon. Très bien. On en reste là sur Benzema.
Mais on garde Kurzawa 4 ans, donc on s'en fout.
Oui, Kurzawa a prolongé 4 ans.
Ça, c'est génial.
C'est bien.
Ah ouais, c'est super. Je suis bien content d'arrêter, tiens. Raison de plus pour arrêter.
Merci beaucoup, Fred.
Mais je peux pas rester au quiz?
Ah bah bien sûr, si tu veux.
Moi, c'est ce que je préfère. Pas de
problème. Que s'il y a du Barbara, bah je vais Kefred. Hein.
Allez, on fait ça dans un instant, le blind test. À tout de suite. Allons-y sur les messages. Alors juste avant, j'ai Football Total qui m'a envoyé le classement du blind test.
Tu sais qui est
le classement individuel? C'est le statisticien.
Bah, c'est le jeune gars qui est venu dans l'after l'autre fois.
Ah oui, comment il s'appelait?
Maxence, 14 ans, brillantissime.
Très bien. Alors on l'embrasse.
Brevet mention très bien.
Enfin, supporter du Real.
Donc comme il nous a envoyé le classement, savez-vous qui est en tête? Qui est en tête du blind test? Qui a donné le plus de bonnes réponses?
Julien, non?
C'est Julien, exactement.
Bah tu m'étonnes.
En tête de l'indice de performance.
Test, c'est pour les poireaux, hein, de toute façon. Hein.
C'est vrai.
C'est le jeu apéro au départ. Hein, ça.
Avec 17 victoires, Julien est devant. Voilà. Bon après il y a un ratio très compliqué qui lui permet d'être en tête. Mais autant de victoires que Duga, qui a 17 victoires également.
Ah oui.
C'est magnifique.
Bah, bien sûr.
Mais pour plus de
blind test. Et qui est troisième?
Ah, c'est pas moi.
Hein. Non.
C'est Franck.
C'est Franck. Exactement, c'est Franck. Franck Leboeuf qui est là. Alors, sachez qu'en quatrième, il y a Coach Courbis. De façon non, mais
son classement est mal fait parce qu'il devrait avoir une prime.
Oui.
Moi, j'en ai fait 5, oui. J'en ai gagné 4.
Exactement.
J'ai quand même un ratio qui est largement supérieur à certains.
Si tu mets ça au niveau des buteurs, dans une saison, Piquion, il était meilleur joueur d'Europe.
Non, mais sur le ratio, par exemple, Antoine Varnier et Mohamed Bouafsi sont devant parce qu'ils ont 100% de victoire. Mais ils en ont fait un ou deux, tu vois. Donc c'est... Mais sinon, t'as un bon Varnier. Ouais, ouais.
Incroyable.
Ouais, ouais. Exactement.
Antoine Varnier, il a surtout une énorme branlée à Dimeco, je crois, au
Kikadi. Bah bien sûr, il ne parle plus depuis.
Mais je comprends.
Bah oui, bien sûr.
Je ne peux pas assumer ce qu'avait eu Eric.
Antoine a dû tricher.
C'est vrai. Ah non, celui-là, cette fois, il n'a pas triché. Non, c'est impossible. Bon, les autres fois, je ne réponds pas là. Et là-dessus, oui. Alors, Gilbert, tu es 6e, sache-le quand même. Et Manu, tu es 12e, premier relégable.
Super. Ouais, mais c'est bon, il peut y avoir saison blanche.
On peut pas faire un championnat à 12.
Ouais, mise sur la saison blanche. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h49, c'est le moment, vous savez, c'est le moment du blind test, on va se régaler. Allez,
exactement, c'est parti, on se détend et puis ensuite il y aura le RMC Football Show, spécial foot européen à partir de 20h. Première équipe, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, voilà. Fred Hermel, que des champions du monde.
Bravo.
Deuxième équipe, Gilbert Bribois, Julien Cazard. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont invaincus, etc.
Ah, une défaite
seulement, mais voilà, on les laisse ensemble. Avec vous, Christophe et Adam qui sont au 32-16. Christophe, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Christophe.
Tu veux faire équipe avec qui?
Christophe.
Très bien, Christophe.
Avec toi, Christophe.
Avec Christophe. Et donc, Adam, bonsoir. Tu es avec Gilbert et Julien.
Salut Jean-Louis, salut toute l'équipe.
Salut.
Je voulais défoncer
Cazard
à la base.
Ah mince, désolé.
Ça fait toujours plaisir.
On te fera son numéro.
Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais te faire gagner.
Mais tu nous appelles d'où, Adam?
De Toulouse, mais supporter de l'OM.
Toulouse, normalement, on aime bien.
C'est la ville de Julien, la vraie ville de Julien Cazard.
Ouais, mais il n'y a pas de club chez nous, ça n'existe pas le foot ici.
Oui, mais il y a Julien comme supporter, c'est ça le principal.
Ouais,
on y va.
Continue. Oublie pas que t'as des dents quand même.
Allez, Julien.
Oui, mais j'oublie pas que t'es à distance. Première chanson, on cherche l'interprète de cette chanson et ensuite tu auras une question foot.
Dave.
Oh oui, Julien Cazard.
Trace.
Oh là là, il est rapide. Fred, c'était bien.
C'est pour Manu, ça. Manu, tu aurais dû trouver ça, Dave.
Bah non, c'est. Pour Fredo, ça non?
Rendez-vous sous le ciel.
Ou quoi? Parce qu'il n'y en a pas un qui a la même version. Alors, question sur la sélection néerlandaise. Qui est le joueur le plus capé?
Cruyff.
Schneider.
Gilbert.
Schneider, bien sûr.
Eh oui. Ça fait 2-0.
Ah oui, c'est vrai que Cruyff s'était fâché en fait.
T'as un mec pour un mec qui boit. Il...
134 matchs.
Ouais,
c'est Schneider, route, hein. Effectivement. Nouvelle chanson 2-0. Réveillez-vous l'équipe de Christophe.
Souchon,
c'est pas Souchon, c'est pas
Les enfoirés!
C'est Souchon, c'est Fred Hermel.
Voilà, ouais. C'est nous, ouais.
Bien, Fredo.
J'ai dit, mais Souchon, non, mais Souchon l'a dit.
Bien, Fredo. Souchon. Hein.
Mais non, moi j'ai dit tout de suite Souchon.
Souchon, c'est moi. Souchon, c'est Fred Hermel.
Ouais. Ah d'accord.
Deux.
Pourquoi t'as dit non, mon Jean-Louis?
Parce que j'avais une autre liste.
D'accord.
Excusez-moi.
C'était Mireille Mathieu, il pensait.
Voilà. On va donc enchaîner avec une nouvelle chanson. Il y a deux.
Quoi?
Bah oui. Pas de question là.
Non, il y a pas de question.
Il y a pas de question.
Parce que je l'avais pas dans ma liste.
Raphaël.
Oui, Duga, Raphaël.
Il est impressionnant, Duga, quand même.
Ouais. Là, il est impressionnant.
Je vais m'entendre.
Ça dégaine vite. Deux partout.
Bah, oui, mais s'il n'y a pas de question foot, on va galérer, nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bah, hein.
Attends, mais moi, j'étais pas avec Duga.
Si, t'es avec Duga, ça fait 2-2.
Non, ensemble, 2-2.
T'inquiète pas, tout va bien. Question foot. Raphaël, comme Raphaël Varane, pardon. Contre qui Varane a-t-il mis son dernier but en bleu?
Suède.
Non.
Belgique,
Allemagne, Allemagne.
Non, ça sert à rien de crier fort, hein. C'est pas comme ça qu'on a la bonne réponse.
Uruguay,
non,
Bulgarie.
Non.
Argentine.
Gilbert se rapproche, mais non.
Arménie.
Monténégro.
Brésil.
Non.
Bosnie.
C'est vraiment un tout petit pays. De
ah, San Marino.
Non.
Biélorussie.
Un peu plus grand.
Albanie.
Andorre.
Albanie. Albanie.
Non.
Andorre.
Non, toujours pas.
Islande.
Non.
Finlande.
Bosnie-Croatie. Bon,
c'était pour personne.
Luxembourg.
C'était la Moldavie.
Moi, je l'ai dit.
Oui, bien sûr. Toujours de partout. Vous me demandez des questions foot, vous connaissez même pas les matchs de l'équipe de France. Incroyable. Ouais,
franchement, France-Moldavie, si on peut éviter.
Nouvelle chanson.
Madonna.
Non. Non.
Ronan Luce.
Ronan Luce.
Ah oui, Julien, Ronan Luce.
Alors, c'est que des chansons françaises que vous nous passez.
Il y en a quelques-unes.
C'est pour ça, alors, en fait. C'est pour ça que
c'est les côtes d'Amérique. T'inquiète pas, il va mettre Joule. C'est plus vraiment du français, là.
3-2. Ronan Luce, la lettre. Qui est sorti en 2006.
Dominic.
Non.
Toulala,
Afrique du Sud. Vous rappelez de la finale de la Ligue des Champions 2006.
Oui.
Nous allons chercher le troisième buteur après Campbell, Eto'o,
Benedetti.
Benedetti, du gars, bien joué. Et pas Benedetti, qui n'existe pas. Trois partout. Bien joué,
du gars. T'as une vraie question foot, là, du gars, je suis impressionné.
Oui.
Franchement, non, vraiment. Ça
bravo,
me touche.
Bravo, du gars.
C'est sa femme qui a soufflé.
Bah non, sa femme c'est pour les questions musique, pas le foot quand même.
C'est vrai.
Ça qui est horrible. C'est sa femme les questions foot. Allez,
salaud.
Droit partout. On l'embrasse bien sûr. Nouvelle chanson.
Ah, c'est machin là.
La tortue, la tortue.
Oui, la tortue.
Willem.
La tortue.
C'est ça, Willem.
C'est Adam qui l'a dit.
Non,
c'est
Adam. La tortue, c'est moi.
C'est Adam qui l'a dit avant. Mais la tortue, ce n'est pas son nom.
Bien joué, Adam.
J'ai pris sa
carte
d'identité.
J'ai pris sa carte d'identité. Il n'y a pas écrit la tortue dessus. C'était Christophe Willem. 4-3.
Christophe peut jouer avec nous aussi, hein, il est long.
Non, mais là j'ai mon producteur, Antoine Varnier, qui me dit oh, la tortue, ça passe.
Bah,
non,
oui, ça
non,
passe.
Non, ça passe pas.
Non.
Vous aurez compris pour qui il joue. 4-3.
Mbappé.
Pourquoi?
La tortue ninja.
La tortue.
Ah oui, non, d'accord. Double jeu donc de Christophe Willem, sorti en 2007. Qui finit 3ème de D1 cette année-là?
Nantes.
Lyon.
Non, non.
Bordeaux.
Monaco.
Non.
Marseille.
Monaco.
Non. Bordeaux.
Adam.
Montpellier.
Adam, c'est pour toi.
Auxerre.
Toulouse.
Non, Toulouse, Manu. Le seul qui dégagne.
Non, je dis avant, Manu. Je dis avant, Manu.
4 partout, c'est Manu.
Je dis avant.
Toulouse, c'est ça, je dis avant. C'est la seule.
4 partout. Quel match. On se régale. C'est magnifique. Nouvelle chanson.
Chantal.
Chantal Goya.
Non.
Imagine
Oasis.
Oasis. Oasis, du gars.
C'était pas Imagine All de Tito.
5-4. Vous pouvez ouvrir le micro de Gilbert, s'il vous plaît.
Manchester City.
Manchester City. J'ai rapporté 2 points en équipe. Tu plaisantes ou quoi? Moi, je suis sur la question foot. Hein, je te laisse.
Ouais. C'est ça la réponse ou pas?
Non, c'est pas ça la réponse. Mais c'est une question sur Manchester City, Oasis, bien sûr. Qui était coach de City avant Guardiola?
Pellegrini.
Ah merde.
Pellegrini.
Ah oui.
C'est Manu.
Mais oui, bien sûr.
C'est moi.
Eh non, c'est Manu.
C'est moi.
C'est Manu.
C'est moi.
6-5.
Il n'y a pas de VAR là?
Non. 6-4. 6-4.
Et 3 rien pour moi.
Pour les champions du monde. Fred est toujours là?
Là, je suis là, bah oui. Pas de Souchon.
On y va, nouvelle chanson, vous pouvez vous refaire les
incognito. Ah c'est
Ah non, moi j'écoute pas ça.
Oui,
Bosch, bien joué.
Bosch,
c'est
qui
ça,
Bosch?
Bosch
Patatos.
Bien joué, Adam.
Eh oui, on est là, Gilbert, allez.
Mais c'est quoi cette musique?
Mais c'est quoi cette musique là, Bosch?
Mais c'est la musique à la mode là, vous avez pas vu la musique?
Non, la musique, on est pas à la mode.
Attends,
Duga,
tu me fais honte là, normalement.
Il y a 48 ans,
vous écoutez.
J'ai 48 ans, mon poulet, attends.
Il y a 48 ans, vous écoutez ça.
6-5.
Mais oui, validé, les Toulousains, ils ont eu gold et Jean-Pierre Madère, ils t'expliquent la musique. Ah, non, mais
c'est vrai, validé, c'est vrai.
Eh oui.
Alors, on va faire une dernière chanson. 6-5. On a bien compris.
Ah non, qui
chansons foot là.
Des chansons foot là. Il a marre des chansons.
Oh,
non, ouais, il fait tout pour faire gagner du gars.
C'est plus drôle.
Il fait gagner du gars. Une
chanson de foot ou de chansons ici.
De chansons.
Katy Perry, du gars. Là vraiment, j'en ai vu des arbitrages à la maison.
Finir la question foot. I Kissed a Girl donc de Katy Perry. Ah oui. Quel joueur a fait un bisou à Zlatan en Ligue 1 alors qu'ils n'arrêtaient pas de se chauffer?
Mavuba.
Non, comment il s'appelle?
Joe Barton.
Non, Mavuba.
Sibeli,
du gars trop fort. Du gars injouable ce soir, donc dans ce blind test.
Musique et bisous, il est très fort.
Bravo Christophe, même si t'as rien trouvé et Cadon a trouvé plein.
Merci Fredo.
On t'envoie quand même un t-shirt RMC Christophe. Merci à tous, Fred, Gilbert.
La prochaine fois, vous mettez des musiques quand j'habitais en France il y a 30 ans, tu sais.
Ça marche, Fred. On vous retrouve dans l'after ce soir. Manu, merci. Du gars, demain, 18h pour Team Du gars dans un instant, le RMC Football Show. Ciao.
RMC, 18h-20h. Team Du gars.